Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Allô, allô. Ouais, eh bien, je suis avec Stéphane qui fait partie de l'organisation. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, on va faire un petit peu le tour du programme, du riche programme du festival. Alors, il y a des rendez-vous tous les jours. On va commencer un petit peu dans l'ordre des rendez-vous journaliers. Ça commence à 10h avec par-ci par-là. Donc là, on sera pas à Offel, justement. Le festival sort un petit peu de l'enceinte du festival, on va dire.
Oui, l'idée, c'est d'amener un petit peu le festival sur les communes alentours, comme c'était à son origine, puisque le festival Parole de Canter à son origine était un festival itinérant qui a été sédentarisé, si je puis dire, sur l'île de Vassivière après une petite dizaine d'années, je pense. Bon, maintenant, on essaie de ressortir un petit peu quelques spectacles sur les communes alentours qui nous aident et qui nous aiment. Donc, effectivement, par-ci, par-là, c'est un peu un off décentralisé du festival Parole de Conteur qui se trouve à Offel.
Donc demain, ça sera à Royères avec Clara Guénoun. Ça sera à Bourganeuf mercredi avec Claire. Son nom est compliqué. Toi, tu l'as
Evakemeyer.
Ah, voilà, parfait. par contre, le jeudi, ça sera à 19h. Là, ça sera pas à la même heure. À Émoutiers, on aura Vi Indigaya qui fera un conte au musée.
Oui,
c'est où à Émoutiers ?
Et au musée.
Au musée. Eh ben voilà. Eh ben parfait. Très bien. Alors, un autre rendez-vous régulier le matin, là, sur le site d'Offel, c'est plus pour les enfants.
C'est principalement pour les enfants. Après quelques années de pratique, on s'est aperçu qu'on avait laissé un petit peu de côté les enfants. Et les contes, c'est pour les enfants. Il était une fois, etc., etc. Enfin, c'est pas que pour les enfants. Donc, on a voulu mettre en lumière, mettre en avant justement les contes pour les tout-petits. Et comme les tout-petits, l'après-midi, font la sieste, on a décidé de faire cette programmation le matin. Et effectivement, tous les matins, à partir de 11h, je crois. Je sais pas pourquoi je dis je crois, d'ailleurs, je suis sûr. À partir de 10h même. Petits enfants, c'est les petites oreilles, c'est comme ça qu'on les appelle, ont aussi leur temps dédié pour écouter des contes et des histoires.
Donc ce matin, c'est déjà passé, il y avait Marie Prêtre et Céline Souchois-Bazin. Demain matin, ça sera Hélène Bevin.
Oui, Hélène Bevin, 11h. Ouais. Oui, absolument.
Après, il y aura mercredi, ça sera Véronique Petel.
Véronique Petel,
qui est une habituée du festival.
Absolument, avec son ami Nicolas.
Et à 11h, ça sera Amélie Armao.
Mmh.
Le jeudi, on aura encore Véronique Petel et Valère Aigoui.
C'est ça, Valère Aigoui, oui.
Absolument. Ensuite, un autre rendez-vous régulier, tous les midis, pendant qu'on mange, il y a un apéro-conte.
Alors, c'est avant qu'on mange, en général.
Oui, ok. Midi et demi, ça commence à midi et demi.
C'est toujours avant le repas. Alors, sur le programme, c'est effectivement noté à midi et demi, mais venez un petit peu avant le temps de prendre l'apéro, justement, puisque le comptoir est ouvert à partir de 10h30, 11h, et pour écouter Kamel et son équipe faire le conte. Hein, j'ai envie de dire ça pour pas être grossier, entre midi et demi et 12h30 et 13h30, c'est un petit melting pot, un mélange de tous les compteurs qui traînent entre guillemets sur le site. On les rassemble, on les met dans un récipient, on mélange tout ça et ça donne une heure d'apéro compte dans la joie et la bonne humeur qui se trouve. L'apéro compte se trouve sur le site juste devant le bar. Hein, c'est beaucoup plus pratique et plus près pour l'apéro. Et c'est tous les jours à partir de, allez, je vais dire midi, c'est bien d'arriver à midi parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis ça nous laisse le temps de flâner et de boire un petit coup avant d'écouter tous ces artistes qui vont vous raconter des histoires courtes, brèves, mais le plus souvent drôles.
Kamel, c'est Kamel Guénoun.
Kamel, c'est Kamel Guénoun.
Ouais, c'est lui qui joue un peu le rôle de chef d'orchestre. Et il invite plein de gens, c'est un peu ça le principe, quoi.
Oui, absolument. Kamel, il fait un petit peu partie j'allais dire des meubles, c'est pas très sympa pour Kamel.
des habitués
du festival. C'est quelqu'un qui est partie intégrante du festival, qui est là depuis la nuit des temps et qui aime bien comme ça glaner, et farfouiller, chercher des gens qui ont des histoires à raconter et d'autres qui en ont même pas à raconter, mais qui racontent quand même des choses. Et tout ça se passe à la buvette du festival tous les jours pour l'apéro-contre à partir de midi, midi et quart.
On peut donner aussi un petit mot, parce que là, en passant justement là, au bar, j'ai vu que c'était Kiol qui animait, qui faisait un peu d'accordéon. Lui aussi, ça fait partie des personnages de ce festival. Il joue un peu le rôle de crieur, on peut dire ça, crieur public.
Oui, le crieur, je dirais presque, sans lui porter injure, que si on était à l'époque des rois de France, ça serait un peu le fou du festival. C'est quelqu'un que vous allez reconnaître de toute façon en arrivant, parce qu'il a des panneaux, des banderoles, il joue de la musique, il chante, et puis il a toujours des tenues, comment dire, des tenues qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Oui, voilà, un peu extravagantes.
Des tenues avec lesquelles on n'irait pas se promener en ville, sauf si on s'appelle Kiol. Donc vous allez le reconnaître, il divague sur tout le site tout au long de la journée. Il a toujours un bon mot à raconter, une histoire drôle ou pas à raconter. En tout cas, vous allez le... Et après, il peut aussi vous donner le programme, parce qu'il a une mémoire d'éléphant. En tout cas, vous allez le reconnaître tout de suite. C'est le seul qui n'est pas habillé comme les autres. Mais il est habillé quand même.
Un autre rendez-vous régulier, tous les jours à 14h, il y a les siestes comptées, un moment que j'aime beaucoup.
C'est ça, le principe, c'est une fois qu'on a rallongé un petit peu l'apéro compte, on a mangé, il faut faire la sieste, ça c'est notre corps qui veut ça, et plutôt que de vous laisser faire la sieste chacun de votre côté, on vous rassemble tous sur des chaises longues, et il y a des compteurs qui vous racontent des histoires pour vous endormir, c'est paradoxal, et je peux vous garantir que ça marche, donc les siestes comptées, c'est tous les jours à 14h.
C'est un petit peu en contrebas, c'est toujours sur le site, hein, mais c'est un petit peu à l'écart justement pour être au calme, près d'un petit étang. C'est merveilleux cet endroit.
C'est un coin, c'est un petit coin idyllique pour faire la sieste, hein, franchement. Pour avoir essayé, ça marche.
Alors je ne sais pas si c'est le cas cette année, les années précédentes, il y avait aussi un petit coin pour les enfants, une sieste comptée dédiée aux enfants. Est-ce que c'est le cas cette année ?
C'est encore le cas cette année. Les siestes comptées adultes, donc c'est à côté de l'étang. Et un petit peu plus haut, la marche du dessus, on a un petit espace pour les siestes comptées enfants. Et tout ça orchestré par nos amis de l'association Les Passeurs d'Histoire de Limoges, qui depuis quelques années aussi nous filent un petit coup de main pour que les gens se sentent bien sur le site du festival.
Ça dure une heure et demie, et il y a plusieurs compteurs qui s'enchaînent, hein, c'est ça, hein.
C'est ça. Alors il y aura peut-être un compteur qu'on aura aperçu 10 minutes ou 5 minutes à l'apéro qui viendra lui aussi participer à la sieste des visiteurs. Mais c'est donc principalement l'association Les Passeurs d'Histoire. C'est une association de compteurs qui raconte des histoires pour nous faire dormir, hein, ou en tout cas nous faire ne plus penser à rien, peut-être s'endormir, et juste à écouter des belles histoires.
Alors une nouveauté cette année, c'est Mister Mystère.
Alors Mister, comme son nom l'indique, c'est un mystère. Je peux vous donner un indice, hein, la personne qui fait ça, c'est un grand monsieur qui nous vient du Schnorr et qui n'a pas beaucoup de cheveux, donc il lui a très peu de cheveux. Et tous les jours, c'est le conte mystère, on ne sait pas ce qu'on va écouter, on ne sait pas de quoi ça va parler, pour la bonne et simple raison que je ne pense pas que lui soit au courant de ce qu'il va faire.
Ah oui.
Donc il peut puiser son inspiration dans le public, il peut vous demander, vous pouvez lui dire, tiens, j'ai une histoire sur ça, et lui, il va faire quelque chose de magnifique par rapport à tout ce qu'il a collecté, tout ce qu'il a entendu. Donc c'est Mister, et je ne vous dirai pas son nom.
Très bien. Et j'ai bien fait de ne pas le dire.
C'est marqué sur le programme.
C'est, hein, ça, oui, voilà.
C'est Pierre Delis.
En tout cas, c'est sûr qu'on ne connaît pas l'histoire qu'il va nous raconter, mais c'est vraiment de l'improvisation. Alors c'est ça le principe, en
ça
fait.
Ça y ressemble, en tout cas, beaucoup.
Très intéressant. On ira peut-être aller glisser un petit micro de Radio Civière pour vous faire écouter ça. On ira aussi sûrement sur les siestes comptées pour vous pouvoir faire écouter à ceux qui ne peuvent pas venir au festival quelques contes. Ensuite, tous les jours à 16h30, il y a la scène ouverte.
Alors la scène ouverte, c'est comme son nom l'indique, une scène où il n'y a pas besoin d'être professionnel, il n'y a pas besoin d'être artiste confirmé, il n'y a peut-être même pas besoin d'être artiste pour vous lire raconter une histoire. C'est chapeauté par Bernard Barbier, donc vous le trouverez sur le site. Si vous ne savez pas où il est, vous demandez aux gens qui ont un petit badge où est Bernard, et après vous verrez avec lui par rapport à une programmation si vous avez une histoire à raconter, si vous sentez des velléités artistiques, c'est le moment, c'est l'instant. Et c'est tous les jours à partir de 16h30 sur le site d'Ophel. Ouais.
C'est un bon moyen de s'essayer à l'exercice de conteur.
Absolument.
Ou de conteuse. On s'inscrit, on dit qu'on a envie de raconter une histoire, votre nom est écrit sur un petit bout de papier et puis Bernard, il pioche dedans.
Il tire au sort parce qu'il y a bon, le temps est, il y a un temps imparti quand même, hein, donc c'est une heure pour l'ensemble de la prestation, entre guillemets. Donc si tous les jours, on doit avoir une trentaine ou une quarantaine de personnes qui veulent s'essayer, après bah, c'est le sort, c'est le hasard qui fait le reste, et Bernard tire au sort les gens qui passent sur scène devant un public nombreux. Donc ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui vient juste raconter une histoire et qui a l'habitude de le faire à la fin du repas dominical. C'est un autre monde, mais c'est quelque chose à essayer pour les artistes futurs. Pourquoi pas, éventuel.
Et il n'y a pas d'âge, on peut être très jeune, on peut être très vieux, peu importe.
Il n'y a pas forcément...
J'ai vu des enfants se prêter à l'exercice, hein, ils ont osé. Hein.
Absolument, non, il n'y a pas de souci.
Un autre rendez-vous régulier à 18h, c'est le conte en épisode.
Alors, le conte en épisode, c'est un peu comme les feux de l'amour, hein, c'est pour fidéliser le public. Bon, là, on n'est plus dans la ménagère depuis de 50 ans, mais c'est pour fidéliser le public et pour laisser un petit peu de suspense pour le spectacle du lendemain. Ça a commencé hier et c'est notre ami Luigi Rignanese qui fait ce conte en épisode sur, je crois, 5 jours avec le dénouement, le final, le dernier jour. Voilà.
Ouais,
si on veut avoir le final, on est obligé de faire tous les épisodes. Et c'est tous les jours à 18h.
Ah oui, si on a raté un épisode, c'est grave.
Non, c'est pas trop grave, je pense.
Ça se rattrape un peu quand même.
Il y a un petit résumé en début de séance, mais le mieux, l'idéal, c'est d'avoir tous les épisodes. On ne rate pas un épisode, du compte en épisode, enfin.
Avec Luigi Rignanese. Je prononce
absolument
bien son nom ?
C'est bien, c'est très bien.
Ensuite, un autre rendez-vous régulier. Tous les rendez-vous sont presque réguliers. Hein. De toute façon, le programme, ça se défile toujours un peu pareil, tous les jours. À 19h15, alors c'est Armel Hodigan.
Et Pepo
est là alors cette année ?
Bien sûr, il a Pepo. Armel ne sera jamais là sans Pepo et vice-versa. C'est sur le petit gradin en bois et tout autour, devant la caravane de nos amis Armel et Pepo, conteurs célèbres hein, qui font aussi un petit peu partie de l'histoire du festival. C'est des contes de Zigane et c'est comme la plupart des contes en extérieur l'après-midi, et ce sont des spectacles absolument gratuits. L'entrée au festival est gratuite et on va dire au moins 60% des spectacles sont gratuits et accessibles à tous. Donc là, c'est 19h15 sur les gradins et à côté devant la caravane Zigane qui est facilement reconnaissable à côté du grand chapiteau.
Oui, on peut pas la rater. Alors justement, on disait que l'entrée est gratuite du festival, donc il y a plein d'événements qui sont gratuits. C'est lesquels qui sont payants ? C'est tout ce qui se passe sous le chapiteau ?
Absolument, tout ce qui se passe sous le grand chapiteau fait l'objet d'une billetterie. Et à ce sujet, nous avons sur le site une billetterie que vous trouvez en arrivant sur le site. Vous pouvez acheter vos billets pour l'après-midi, pour les comptes en épisode, pour la veillée spectacle du soir, celle du lendemain, celle de 2 jours après. Et puis, une fois que vous êtes rentré sur le site, vous allez à droite et à gauche au gré des histoires qui se racontent ci et qui se racontent là.
Alors maintenant, on va faire un peu le tour justement des veillées spectacles tous les soirs à 21h.
Oui.
Excuse-moi, je m'étouffe. ce soir, ça sera Najwa Darwish.
Et non, parce que c'était hier. Ça.
Ah, bah oui, je regarde pas le bonjour. Et maintenant, ce soir, ça sera Pepito,
et
Matteo.
Non, c'est le jour des pièges, mais c'est pas Pepito non plus, puisque malheureusement, les férus de compte et ceux qui nous suivent sont au courant. Mais Pepito a eu quelques soucis de santé il y a une petite quinzaine de jours.
Okay.
Donc, mais il sera remplacé au pied levé par notre ami Olivier Derobert, qui est un conteur qui vient souvent nous rendre visite, qui est un conteur, comme on va dire, du sud-ouest.
Avec un petit accent comme ça.
Et un gros accent comme ça. Hein. C'est un grand bonhomme de plus de 2 mètres et qui raconte des histoires tendres. Le contraste est saisissant, mais tendre, mais surtout aussi très drôle. Donc, moi, je vous conseille de venir voir ce soir Olivier Derobert dans le Grand Chap en remplacement, entre guillemets. On ne remplace pas Pepito Matteo.
Ouais.
Mais c'est un programme bis. Et merci à Olivier d'avoir d'avoir accepté de venir comme ça au pied levé présenter son spectacle. Mais vous ne serez pas déçus, rassurez-vous. Donc ce soir, Olivier de Robert à 21h. La billetterie est ouverte en ligne, mais également sur le site du Festival d'Offel.
C'est quoi le titre du spectacle ?
Je n'en ai pas la moindre idée. Okay, j'aurais dû vous le dire avant.
Bah oui, c'était
une question embarrassante.
C'est un peu improvisé. Mais en tout cas, ça va être bien, il faut venir, voilà. demain, pour la veillée spectacle à 21h, ça sera Ria Carbonaise.
Ria Carbonaise, oui, demain.
Là, c'est bon, hein, je ne me suis pas trompé là cette fois.
Non, c'est bien. Il y a Ria Carbonaise. Ensuite, mercredi, c'est Marien Tillet qui nous rendra visite à 21h. Le jeudi soir, Pierre Desvignes et Julien Béart. Pierre Desvignes, c'est quelqu'un qui est complètement barré. Donc, ce sera un spectacle complètement barré. Ça, je vous le garantis. Et on terminera non pas par Dick Angarn, parce que Dick Angarn a eu également aussi de gros problèmes de santé et il ne pourra pas assurer le concert de vendredi soir, mais c'est encore une bêtise, mais j'ai oublié le nom du groupe très connu qui allait remplacer, parce qu'on a trouvé aussi un parallèle pour animer et assurer cette soirée de clôture, mais j'ai un gros trou de mémoire, je ne me souviens pas du tout du nom du groupe. C'est pas très vendeur, j'en suis désolé, mais
c'est vendredi et de toute façon nous
on aura le temps.
Voilà, nous on est là tous les jours, on va faire notre midi nal en direct toute la semaine jusqu'à vendredi, donc on pourra donner un peu les détails et les petits changements de programme.
J'ai fait une petite com à trous et je viendrai boucher les trous cette semaine en vous donnant les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment.
Alors pour finir, il y a encore une nouveauté cette année, ce sont les Rescapés de la Parole. C'est un temps à 22h30 animé par Grimaud et Bélanger.
Ah, je n'ai pas leur prénom. Et son acolyte. Alors c'est les Rescapés de la Parole, c'est on va appeler ça un cabaret final après le spectacle du soir sous le Grand Chap. On boit un coup et après on va voir Achille qui anime une sorte de cabaret de la parole. Alors c'est vaste, mais c'est vague. Et Achille Grimaud, c'est aussi un personnage qui est un petit peu, qui est pas sur la même planète que nous. Et c'est quelque chose qui, je pense, vaut d'être vu et d'être entendu. Donc moi je vous donne rendez-vous après le spectacle, la veillée spectacle du soir. Le cabaret entre guillemets d'Achille Grimaud sous le petit chat papouas. Alors vous pouvez venir uniquement pour le spectacle d'Achille Grimaud sans être obligé de passer par la veillée spectacle, hein. Vous arrivez à 22h et on file directement sous le chat papouas pour écouter Achille Grimaud et c'est son acolyte nous raconter plein d'histoires drôles, marrantes et un petit peu loufoques aussi.
Parfait. Voilà, ça c'est le programme, tous les comptes à voir et venir écouter. Un petit mot un petit peu sur tout ce qu'il y a sur le site. Alors j'ai vu qu'il y a un petit musée là, juste à côté de nous.
Il y a Zébréric, le musée, un musée drôle, fait de photos, de montage, de mécanique. Donc c'est effectivement à côté du Grand Chap sur le site d'Offel. On a également nos artisans, hein, qui il y a un petit, enfin un grand d'ailleurs, hein, il y a un boulanger, il y a des fabricants de bijoux, des relieuses, etc. C'est sur le coin artisan, juste à côté, c'est tout à côté du Grand Chapiteau. En fait. Le Grand Chapiteau est central. On a une buvette, on a un bar, on a un restaurant, on a des tentes, on a des canapés, on peut se reposer, on peut se restaurer, on peut passer une journée complète sans être obligé de ressortir. Voilà ce que je peux vous dire.
Et on peut manger le midi et le soir.
Midi et soir.
Ok, bah parfait. Et bah merci beaucoup Stéphane. Je vous laisse retourner à la buvette, c'est là que je vous ai trouvé.
Alors, pour préciser,
pour tenir la buvette, pour travailler à la buvette, bien sûr, bien évidemment.
Je vous remercie. Ma réputation est sauvée.
Merci Stéphane et merci à toute l'équipe d'organisation du festival Parole de Conteur.
Moi, je vous remercie Radio Civière d'être présent toute la semaine sur le festival Parole de Conteur et c'est une présence qui m'enchante énormément parce que Radio Civière fait aussi partie de l'histoire de Parole de Conteur.
C'est
merci
vrai.
À vous.
Merci, tout le plaisir est pour nous.
Radio Civière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Et merci, merci Stéphane, merci beaucoup pour tous ces compliments qui nous vont droit au cœur. On est ravis aussi d'être là, donc je rappelle à Ophel sur le Festival Parole de Conteur qui se tient toute la semaine du 17 au 24 août. Vous êtes les bienvenus pour venir écouter toutes sortes de contes dans une ambiance super chaleureuse. C'est les vacances ici, il fait un temps magnifique, c'est très très chouette avec des tentes partout, des voiles pour faire de l'ombre et des canapés, des fauteuils. C'est très très accueillant et il y a plein de contes toute la journée. Donc on a fini avec l'interview de Stéphane, mais moi je ne vais pas quand même vous faire défaut sur les rendez-vous que je vous fixe depuis presque 2 mois maintenant, puisque nous continuons notre roman La Croisée de Sloucha, puis tout ce qui a suivi, ce roman que j'ai faussement annoncé comme étant le dernier épisode la semaine dernière, alors qu'en fait ça continue, et comme il y en a beaucoup du coup et qu'il en reste pas mal en fait, j'avais pas prévu, je vais vous diffuser pas mal sur les 2 dernières semaines pour qu'on ait fini à la fin du mois d'août. Donc là ça va être le 12e épisode, je vous rappelle quand même un petit peu de quoi il s'agit, c'est Morgane Defay qui nous fait la lecture de La Croisée de Sloucha, puis tout ce qu'a suivi, où la langue très imagée est un savant mélange de créole rural futuriste. Ce texte est issu de La cartographie des nuages, un roman à tiroir de David Mitchell paru en 2004, avec cette histoire imbriquée se déroulant à différentes époques. Le petit résumé, dans un futur post-cataclysmique, le vieux Zachary raconte sa jeunesse. Il a vécu sur Big Island dans une tribu régulièrement assaillie par des hordes barbares. Arrive alors une ethnologue, issue du dernier bastion de civilisation, venue étudier les coutumes locales.
Le retour aux vallées, ça n'a pas été une balade d'été non plus, ça non. Mais c'est pas ce soir que je vous ferai récitance des aventures. Méronyme et moi, on n'a pas trop parlé pendant la redescente. Il y avait comme une confiance puis une compréhension qui nous liait désormais. Cette maldite Mauna Kea avait fait de son mieux pour nous tuer, mais ensemble, on avait survécu. Je devinais qu'elle se sentait loin loin de sa famille puis de ses proches, et mon cœur avait mal de la voir tellement décelée. Abel nous a accueillis dans sa maison garnison 3 soirs plus tard, puis il a envoyé un message au Bélé comme quoi on était revenus. Ils posèrent tous la même question. « Qu'est-ce que vous avez vu là-haut ?» Bah, c'était désolé et piteuseux, je leur ai dit. Il y avait plein de temples où qu'il restait que de la savance perdue puis des ossements abandonnés. Mais j'ai pas parlé de l'astronome roi, ça non. Ni de ce que m'avait révélé Méronyme sur la chute. Et puis surtout pas de mon employade avec Georgie l'Ancien, non. Entre-temps, j'ai laissé venir et repartir de nombreuses années. Je comprenais pourquoi que Méronyme avait pas dit tout le vrai sur son île puis sur sa tribu. Les gens croient que le monde est construit comme ça. Alors quand on leur dit que c'est pas comme ça, c'est le toit qui leur tombe sur la tête. Et peut-être bien aussi sur la vôtre. Petit à petit, la dernière lune de Méronyme aux 9 vallées a grossi, puis est venu le jour de la troquerie de Honokaa, la plus grande rassemblée des peuples de front de vent, qui se tenait une fois l'an à la lune de la récolte. Alors pendant des jours puis des jours, ça tissait dur des couvettes en laine de chèvre, la meilleure troque de notre maison. Tandis qu'on vagabondait vers le sud sur la route ruante des anciens qui menait à Honokaa, la brise de l'océan est devenue fraîche et ça nous a rapiécé l'esprit. Alors on a raconté des récitances, histoire de raccourcir les kilomètres. Le raconteur s'asseyait à l'envers sur la bourrique en tête de cortège, de façon pour que tout le monde l'entende. Roderick a fait récitance du conte de Rudolph le voleur de chèvres au trou de balle rouge, suivi de celui de Billy barre de fer et de son horrible pic. Puis ensuite, Volt a chanté une chanson galocharde. « Oh, Sally des vallées, oh !» malgré qu'on lui a acheté des bâtons parce qu'il clatait cet air harmonié. Puis l'oncle abeille a demandé à Méronyme de nous apprendre une récitance pressiente. Elle a hésité un battement ou deux avant de répondre que les contes pressions, dégoulinés de regrets, puis de chagrin, puis de mauvais augure, qu'était pas bon à dire l'après-midi ensoleillé d'une veille de troquerie. Mais elle voulait bien nous en raconter une qu'elle tenait de quelqu'un qui habitait sur les terres brûlées, d'un endroit loin loin nommé le Panama. On a tous ouaillé, alors elle s'est installée sur la mule de devant, puis elle a dit une brève et gentille récitance que je m'en vais vous rapporter pour peu que vous la bouclez et que vous vous tenez tranquille. Et puis que quelqu'un me ramène une bonne tasse de gnolette. J'ai la gorge collante et toute sèche. À l'époque où que la chute chutait, les hommes avaient oublié comment qu'on faisait du feu. Oh, des choses terribles, puis mauvaises les guettaient, ouais. Quand que venait la nuit, les gars pouvaient rien voir. Quand que venait l'hiver, ils pouvaient rien réchauffer. Quand venait le matin, il ne pouvait rien faire rôtir. Alors la tribu est allée voir le sage puis a demandé. « Toi, le sage, aide-nous. Tu vois, on a oublié comment qu'on fait du feu. Ah, on n'est plus que douleur. » Alors le sage a convoqué le corbeau, puis l'a ordonné ainsi. « Traverse l'océan foliée de palpitude jusqu'au grand volcan, et sur sa pente forestueuse, trouve-toi un long bâton. Prends-le en bec, puis envole-toi jusqu'à la bouche du grand volcan, puis plonge le bâton dans le lac où que les flammes y bouillonnent et crachent. Ensuite, rapporte ce bâton enflammé jusqu'à le Panama pour que les hommes se mémorent à nouveau du feu puis comment qu'on en fait. » Le corbeau a suivi l'ordonnance du sage et traversé l'océan en folie de palpitude jusque tant qu'il a vu la fumée du grand volcan dans le pas loin. Il a descendu en tournoyant sur ses pentes forestueuses, grappillé quelques groseilles, avalé un peu de printemps frais, puis s'est mis à farfouiner une longue branche de pin. 1, 2, 3, puis hop, le corbeau s'est envolé, le bâton en bec, puis hop, il a piqué dans la bouche souffreuse du grand volcan, ouais. Il s'est redressé au dernier battement de son plongeon, puis a trempé dans le feu liquide le bâton. Wouh, le bâton a flammé. Le corbeau est remonté vers le ciel, puis ressorti de la bouche du volcan. Il volait avec ce bâton brûlant dans le bec, ouais. Il faisait cap vers chez lui. Ses ailes battaient, son bâton brûlé, les jours passés, la grêle tombée, les nuages noircissaient. Oh, la langue de feu remontait le bâton. Ses yeux s'enfumaient, ses plumes crissaient, son bec le brûlait. « J'ai mal !» croissait le corbeau. « J'ai mal !» Alors il a lâché ce bâton ou pas? On se mémore comment qu'on fait du feu ou pas? Voyez, qu'a dit Méronyme, qui chevauchait la mule de devant à l'envers. Cette histoire parle pas de corbeau ou de feu, ça raconte d'où nous vient notre caractère. Je dis pas que cette récitance a beaucoup de sens, mais je m'en suis toujours mémorée. Et il y a des fois, quand il n'y a pas beaucoup de sens, ça donne plus de sens. Bref, la journée mourait sous les mottes de nuages, puis plusieurs kilomètres nous séparaient toujours de Honokaa. On a monté le tentement pour la nuit, puis on a jeté les dés pour désigner la garde. Les temps étaient durs, vous voyez. On préférait éviter une embuscade. J'ai fait un 6-6, alors j'ai pensé que peut-être je guérissais de ma malchance. Crétin du destin que je suis, puis qu'on est tous. Honokaa était la ville la plus animée du nord-est de Front de Vent, vous voyez. Les hommes de Honokaa étaient des marchands ou des artisans pour la plupart. Ouais, ils vénéraient Somni, mais comme ils étaient malins, ils étalaient leur chance en vénérant aussi les dieux Ilo. C'est pour ça que nous autres des gens des vallées, on les prenait un peu pour des sauvages. Pendant la troquerie, les gardes du sénateur surveillaient l'entrée de la ville et les granges. Et puis ils avaient une prison avec des barreaux de fer. Mais jamais un armiste avait empoigné un marchand si ce dernier n'avait pas volé quelque chose ou claté la tranquillité et la loi. Il y avait plus de lois à Honokaa que partout ailleurs sur la grande île, à part les 9 vallées plissées, je pense. Mais bon, la loi et la civiliserie, c'est pas toujours la même chose, non? Regardez, les Kona ont beau avoir des lois Kona, ils n'ont pas une puce de civiliserie. On avait dit à personne que Méronyme venait d'ailleurs, non? On l'avait renommée Loutresse, de la maison de l'ermite tout en haut du ravin de la vallée de Pololu. Loutresse, l'herboriste, était mal formée mais chansarde, qu'on disait, pour justifier sa peau noire puis ses dents blanches. Méronyme puis moi, on a eu vite fait de troquer nos fileries de laine de chèvre et nos couvertes. Ouais, une colle-école à la peau sombre m'a donné un sac de café de Manuka, des tuyaux en plastique impec, des oies bien grasses, des sacs de raisins secs, et puis d'autres choses que je me mémore plus. Après, j'ai participé à un battement ou deux à la troquerie des communes, puis je suis sortie bagnaudée. Je donnais le « comment que ça va » à certains marchands des carrefours. Les sauvages sont pas toujours de mauvais bougs, non? J'ai appris que les Mackenzie-Yen s'étaient inventé un dieu requin et qu'ils sacrifiaient des moutons qu'ils jetaient dans la baie après les avoir entaillés puis dépâtés. J'ai entendu d'habituelles récitances de Tapagri Kona, survenus cette fois-ci un peu plus à l'aise que leur terrain de chasse courant, et ça nous a tous assombri le cœur, puis l'humeur. J'ai vu qu'on s'attroupait autour de quelqu'un. Je me suis glisse-feutrée plus près et j'ai reconnu Méronyme, ou plutôt Loutresse, assise sur un tabouret, en train de dessiner le visage des gens, ouais. Elle troquait ses dessins contre des breloqueries ou un peu de boostify, Et les gens étaient contents comme tout quand ils voyaient leur visage sur le papier surgir de nulle part. Alors d'autres gens s'agglutinaient puis disaient « Moi ensuite !» Ils lui demandaient où qu'elle avait appris ça. Puis à chaque fois, elle répondait « C'est pas une question d'apprendre, mon frère, c'est une question de pratique. » Aux moches, elle donnait davantage de beauté qu'il y en avait dans leur visage. Mais à toute époque, les artistes avaient fait ça qu'elle disait. L'outresse, l'herboriste dessineuse. La nuit est tombée et on est retourné devant nos provisions, puis on a tiré au sort pour monter la garde. Et dans ces maisons particulières qu'on appelait bars, la fête a commencé. Mon tour de garde était tôt, alors avec Walt et l'oncle Abeille, on a montré des endroits à Méronyme, puis après, des musicards nous ont ramenés à l'église. Un presse-essouffle, des banjos, des viols poisson-chat, puis une rare et précieuse guitare d'acier. Et puis des barriques de liqueur que chaque tribu apportait, histoire de montrer qu'ils étaient riches. Et des sacs d'herbe de joie aussi, parce que là où il y a des îlots, il y a de l'herbe de joie. J'ai tiré fort sur la pipe de Walt. Et alors, les quatre journées de marche qui relient nos terres libres de Front-de-Vent à celles des Connats de Vauvon, on semblait en faire 4 millions, ouais. Les babiotes de l'herbe de joie m'ont bercé cette nuit-là. Et puis les tambours se sont mis à résonner. Chaque tribu avait son tambour propre, voyez. Faudé, qui habite à la maison de la Maro Lotus, puis deux, trois autres gens des vallées tapaient sur des pots de chèvre et des lattes de pain. Puis des îlots barbus frappaient leur tambour à flinfi-flinfi. Et puis une famille d'Onokaa cognait sur ses sages crangs. Puis des types de Honoumou ont sorti leur agi de croque. Alors, pensez si ce super festin de percussion faisait vibrer la corde à joie des genoux. Et la mienne aussi, ouais. Puis il y avait l'herbe pour vous guider entre les couac-couac et les poum-boum et les pam-pim-pom. Jusque tant que nous autres danseurs étions plus que grondements de sabots et palpitations sanguines et années échues. Chaque rythme était une vie qui me quittait, ouais. J'ai vu toutes les vies que mon âme avait vécues jusque loin, loin avant la chute, ouais. Je les voyais du haut de ce cheval au galop, pris dans un ouragan. Mais je pourrais pas vous raconter ces existences, parce que les mots me fuient. En revanche, je me souviens bien cette coléole à la peau sombre, puis des tatouages de sa tribu, ouais. C'était un arbuste qui pliait, puis moi j'étais l'ouragan. Quand je soufflais, elle pliait. Quand je soufflais plus fort, elle pliait plus fort, presque collée à moi. Puis j'étais les ailes du corbeau qui battait, et elle, la langue des flammes. Puis quand l'arbuste calocole m'a enveloppé le cou avec ses doigts de saule, ses yeux ont quartzé. Alors elle m'a murmuré dans l'oreille « Je recommencerai, ouais. Et nous recommencerons, ouais. »
Et voilà, c'était le 12e épisode de La Croisée de Sloucha puis tout ce qu'a suivi, lu par Morgane de Fay. Retrouvez la suite cette semaine, mercredi et vendredi. Et pour les deux derniers épisodes, ce sera mardi et jeudi de la semaine prochaine, la dernière semaine d'août. Il va falloir en profiter d'ailleurs parce qu'après, la quotidienne va s'arrêter fin août. Je vais être très triste. Mais voilà, en attendant, on a encore quelques épisodes de La Croisée de Sloucha pour nous retrouver autour de ce petit rendez-vous littéraire qu'on aime tant. Enfin, moi, que j'aime beaucoup en tout cas. Et voilà.
Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Donc on est toujours dans la midinale qui approche de sa fin et là tout de suite c'est l'heure de retrouver la boutique des idées.
La boutique des idées, le collectif Sonar présente les capsules sonores d'un diagnostic de territoire qui s'est appelé De proche en proche. What you
say. L'exposition sonore qui donne la parole aux habitants et aux habitantes est la restitution du diagnostic de territoire commandé par la boutique des idées et menée par l'atelier Sonar. Durant plus d'un an, ceci est un véritable portrait sensible. Vous trouverez les visages, les lieux, les voix sur les ondes de votre radio locale préférée. C'est une nouvelle chance de découvrir les créations sonores d'Estelle Coquin et Aline Chambral, mises en espace par Caroline Paul, ainsi que les dessins, vidéos et photographies de Morgane de Fay.
Si la forêt pouvait redevenir ce qu'elle était il y a 15 ans. C'était super beau, on se baladait dans des chemins creux, c'était
Il y a des chemins, moi, que je prenais il y a quelques années. On ne peut plus y passer du tout. C'est un truc, moi, que j'entends beaucoup, beaucoup de la part des creusois, c'est que ça fait vraiment mal au cœur.
Parce que c'est vrai que la nature, en fait, quand on regarde, il y a certains terrains que j'ai connus il y a 2 ans qui sont maintenant complètement rasés. Et c'est un peu triste, en fait, je trouve ça un peu triste.
Quand on prélève vraiment les arbres à maturité et qu'on laisse les autres pousser, ça va. Mais là, c'est vraiment des coupes rases qui deviennent vraiment des prairies.
Ça fait mal quand on les voit tomber. Moi, ils me font l'impression, je disais, c'était mes vieux ancêtres.
On rase, mais c'est ce qui nous retient l'eau. Ça va être chef-d'œuvre en péril, quoi. On voit des paysages où, effectivement, on fait que des coupes rases, puis d'éclaircies. Ça va être problématique, je pense.
C'est sûr que ça change le paysage d'un coup, mais c'est sûr, dans ton jardin, quand tu vas ramasser tes salades, c'est sûr, il n'y a plus que la terre, quoi. Mais c'est pareil.
C'est peut-être aussi plus facile, hein. C'est vrai que c'est certainement plus facile de faire une coupe complète, mais c'est une façon de faire qui est très ancienne.
Non, le souci, moi, c'est quand vous voyez des grosses coupes, ou c'est des tas de broussailles. On est une grosse entreprise et mettons, on a une pelleteuse, nous, qui font les remises en Inde, derrière, qui font les préparations de sol. Et après, il y a les gars qui viennent pour replanter, tout simplement. C'est l'exploitation, quoi.
Mais le fait que ce soit coupé, qu'on laisse le bazar sur place, que les chemins soient défoncés, qu'on replante rien, que ce soit envahi par les ronces et les fougères, c'est ça qui est un problème. C'est plus la façon dont c'est fait. C'est plus ce que j'appelle le massacre de forêt.
Vous avez souvent ces gros engins qui passent dans les chemins sont trop petits, donc il faut débarrasser sur les côtés, coupler. Vous avez tous les oiseaux, tous les insectes, toutes les fleurs sauvages. C'est double catastrophe, quoi.
Ben oui, mais quand les arbres sont mûrs, il faut bien faire quelque chose. Il y a des endroits où ils ont coupé du bois, mais ça arrive à repousser. Ils ont planté des sapins à la place, ça repousse. Il y a beaucoup de sapins.
Ça, le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut. Il peut replanter des feuillus s'il veut. Hein.
Après, c'est normal que les propriétaires cherchent à exploiter leur bois. Les bois, ils sont aussi faits pour avoir une certaine rentabilité.
Je crois que même les propriétaires ne sont plus maîtres de ce qu'ils veulent faire. Mais les techniciens forestiers vous disent non, ça, c'est pas bon pour le marché, ça se vendra pas.
Les gens, ils vendent du bois parce qu'ils ont besoin d'argent. Sûrement, s'ils vendent du bois, s'ils ont besoin d'argent.
Il veut vendre son bois, il appelle un marchand de bois. Le marchand de bois, il vient, il coupe. Il fait exploiter les bois.
En zone rurale, les retraites ne sont pas très élevées. Donc les personnes qui ont un peu de massif forestier essayent d'en tirer profit au maximum. Quoi. Quand vous avez un marchand de bois qui vous propose un prix au mètre cube important, ces personnes sont moins regardantes sur le travail qu'il va te faire derrière, ça c'est sûr.
Je pense qu'on ne peut pas non plus braquer les gens en leur disant qu'ils font n'importe quoi avec leur forêt. Si on leur a jamais expliqué avant qu'on pouvait faire autrement.
C'est le problème des bûcherons. C'est des métiers où vous n'en avez plus. Si vous avez un bûcheron, moi je le fais moi-même le bois. C'est pour ça que j'ai ce tracteur là avec ce treuil. J'ai du bois, je coupe une certaine quantité dans mon bois, je vais dans un autre, je laisse pousser.
S'il y avait une baguette magique, je déracinerais toutes les grandes forêts de pins qui sont destinées à faire du bois de pelet là. Je remettrais des beaux arbres à la place pour qu'on ait des beaux paysages.
Vous savez, la forêt c'est un jardin. Hein. Quand c'est à maturité, vous ramassez et vous replantez. C'est le cycle d'une vie ici.
Mais moi, je dis qu'un arbre, il vit. Et vous voyez, quand je les entendais tomber, il me semblait que je les entendais crier.
On est tous entourés de nature. Et au final, moi, la première, je pense qu'on ne sait pas parfaitement comment ça marche. Et il y a peut-être effectivement un travail de sensibilisation, de prévention aussi.
Il faut comprendre les démarches. À quoi ça sert et les exploitations, comment elles sont gérées, comment elles sont exploitées et ça.
C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de pédagogie auprès des propriétaires et auprès de tous ceux qui les conseillent pour réfléchir à une façon différente d'exploiter le bois.
Donc ça peut être intéressant d'avoir des ateliers dans ce sens-là, en fait, où justement des randonnées, pourquoi pas donc des randonnées dans les coins secrets, et en même temps de prendre conscience un petit peu de ce qui nous entoure et des lieux en soi, quoi.
Je suis à l'association Nos Bois pour Demain. C'est une association pour défendre les bois, parler des bois, parler de ce qui se passe autour des bois, donc les coupes rases notamment, et puis pour se promener, échanger, et puis valoriser ce patrimoine forestier.
Je me dis, en fait, on pourrait tous collectivement acheter des parcelles et juste dire, ok, on n'y touche pas.
Ouais. Je connais plein comme ça des gens qui ont acheté des parcelles juste pour les préserver, pour dire non, j'ai pas envie que cette forêt-là soit rasée, donc du coup je préserve mon biome autour de moi en fait, et du coup je le conserve quoi, et je trouve ça génial.
Ouais.
Il va falloir du monde pour arriver à gagner cette bataille, hein, parce que bon, c'est des grosses entreprises quand même. Hein, c'est... Maintenant on est vraiment dans le rendement quoi.
Quand je suis montée et qu'il y avait la machine qui attrapait les arbres et qui les crochetait et qui les tombait, c'est impressionnant. Hein. Oh, quand je suis allée après, j'ai pleuré mes sapins. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais on va pas pouvoir vivre dans un monde comme ça. Nos sapins, on n'a plus nos sapins, on n'a plus rien du tout. Pourquoi on les a fait couper? Pourtant, il fallait, c'était un besoin, il fallait absolument. Il serait venu à tomber hein, des trucs de 35 mètres,
hein, oui, c'était un risque,
c'était même très dangereux.